Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Commissaire européen, avant d'en venir aux questions européennes, vous avez, en tant que ministre de l'économie, à l'époque connu les crues dans le sud en septembre 2005. Comment est-ce que, au sommet de l'État, on gère ces événements? Comment fait-on pour répondre à la détresse des populations?
D'abord, on a vu les images, elles sont absolument effrayantes. Enfin, c'est absolument inouï ce qui se passe dans le sud de la France et notamment Saint-Martin-Vésubie. C'est vraiment, on pense à tous ces habitants qui voient leur maison emportée par les flots en l'espace de quelques secondes. Enfin, c'est tout à fait. Et je dois vous dire que c'est vrai. J'ai connu ça en tant que ministre, mais on n'avait pas la même ampleur. Hein. On a vraiment l'impression que les choses s'accélèrent. Par parenthèse, il y a certainement des leçons à en tirer sur les conséquences du réchauffement climatique, parce que c'est bien entendu là qu'il faut trouver la cause, d'où le combat. Alors maintenant, comment on gère ça? L'État est présent. L'État a été très présent, du reste, on l'a vu. Il fait ce qu'il doit faire. Et puis, y a évidemment des cellules qui font que les autorités et bien entendu le Premier ministre et le chef de l'État, je peux en témoigner, sont en permanence en contact avec ce qui se passe. Même si, encore une fois, la responsabilité est donnée aux autorités locales pour être au plus près du terrain.
Ce réchauffement climatique dont vous parlez, il s'invite dans les questions européennes. Cette question du dérèglement climatique, comment est-ce qu'on va le régler?
Bah d'abord, il s'invite pas uniquement dans les questions européennes. Hein,
c'est votre travail.
C'est une préoccupation légitime pour toute la planète. C'est donc un combat planétaire. Hein, il faut bien qu'on en soit conscient. Je crois que maintenant, de plus en plus, on en est conscient. Et nous, au niveau européen, eh bien, nous avons pris nos responsabilités, puisque nous avons décidé, au sein de la Commission, et bien sûr sous la présidence de Ursula von der Leyen, de consacrer quand même, excusez du peu, sur le plan de relance qui est absolument gigantesque de 750 milliards d'euros, 37% minimum de ces sommes pour précisément accélérer les mutations nécessaires pour atteindre notre objectif, c'est d'être le premier continent au monde zéro carbone en 2050. On est bien conscient, évidemment, que l'Europe ne réglera pas toute seule les problèmes de la planète, mais on est conscient aujourd'hui et de plus en plus du rôle que l'Europe donne dans le monde pour son moteur. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais malgré tout, c'est un constat. Nous sommes le premier continent à avoir cette ambition. Ça fera évidemment, on a vu la Chine qui indique maintenant 2060, ça fera des émules, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et on est aussi, je dois dire, sans doute et même certainement, le premier continent démocratique pour lequel l'état de droit est absolument essentiel. C'est un fondement de nos valeurs et là aussi, Dieu sait que c'est nécessaire.
Thierry Breton, vous sortez justement d'un sommet européen extraordinaire. Il a beaucoup été question de la souveraineté. L'exemple que l'on garde en tête de ces derniers mois, c'est le manque de flexibilité de l'Europe, de la France aussi, sur les masques au moment de la crise sanitaire. Est-ce qu'on est enfin performant? Est-ce qu'on arrive à reconquérir cette souveraineté?
D'abord, vous prenez l'exemple des masques, évidemment, qui est un exemple parmi d'autres, où effectivement, comme tous les continents, je rappelle que la Chine, au début, nous a appelés au secours, à l'aide, au début du mois de janvier, on est allé fournir des matériels. La Chine n'était pas prête. Personne n'était prêt à cette pandémie, je dois le dire. L'Europe, pas plus que la Chine, ni que les États-Unis. Mais c'est vrai aussi que, je peux en porter témoignage ici ce matin à votre micro, les entreprises européennes, les entrepreneurs européens ont montré finalement une mobilisation extraordinaire. Songez que lorsque la crise démarre, il y a à peu près une petite dizaine d'entreprises qui fabriquent des masques en Europe. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 et qu'on est évidemment totalement autonome. Donc bien sûr, on voit bien que lorsqu'on s'en donne les moyens, on peut l'être. Et attention, souveraineté ne veut pas dire qu'on va tout faire en Europe. Souveraineté veut dire que sur un certain nombre de chaînes de valeur, de produits, je pense en particulier à la santé, on peut penser aussi au numérique, nous allons reconquérir un petit peu ces chaînes de valeur et faire en sorte que, pour être plus fort, y compris dans les négociations internationales, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, on va certainement réimpatrier un certain nombre de fabrications, mais pas tout, évidemment. On ne va pas vivre dans un monde isolationniste. En revanche, on vit dans un monde où il faut de plus en plus savoir et avoir les moyens d'affirmer sa souveraineté et sa puissance.
Alors justement, vous parlez de négociations internationales, monsieur le commissaire européen chargé de la politique industrielle, que dire de ces 863 salariés en France de Bridgestone, qui est une compagnie japonaise? Bercy a promis de lutter, enfin pas de lutter, mais effectivement un bras de fer s'est engagé entre le Japon et la France sur le sort de ces 863 salariés. Comment est-ce que vous voyez la situation?
Alors d'abord, je la vois évidemment en tant que commissaire européen, et je ne vais pas parler évidemment sur des sujets nationaux, mais malgré tout, je porte un jugement, évidemment, et je porte un regard surtout plus qu'un jugement, du reste. Il y a un certain nombre d'entreprises qui vivent des mutations et pour lesquelles il faut préparer ces mutations. Et par parenthèse, les plans qu'on va proposer aux États membres, on soutient, oui. C'est précisément pour les aider dans ces mutations. Alors maintenant, je crois qu'il est absolument évident qu'il y a deux choses à bien distinguer. Il y a d'abord les conséquences de la pandémie, et là il y a des interventions, il y a des moyens financiers et des collectivités locales, et de l'État, et de la Commission européenne, pour aider précisément à lutter contre l'impact. Et puis il y a, je dirais, un certain nombre de circonstances qui étaient peut-être plus inscrites. Il faut quand même que l'État soit extrêmement vigilant, et que si jamais il y a eu des aides, que ces aides, qui étaient généralement associées à un certain nombre d'obligations, vérifier que ces obligations ont été respectées. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le cas de Bridgestone, mais si ce n'était pas le cas, il faudrait évidemment agir assez fermement.
Vous travaillez effectivement sur ce sommet européen sur la souveraineté. On parlait de souveraineté numérique également de l'Europe. Est-ce qu'il y a encore une lutte aujourd'hui de l'Europe contre les GAFA?
Oui, alors, c'est un terme, pour moi, il faut bien que nos auditeurs aient ça en mémoire. Ce thème de souveraineté numérique, bien sûr, on sait qu'en France, on le porte depuis un certain temps, mais il a été repris in extenso par la chancelière, qui, comme vous le savez, assure la présidence tournante de l'Union en ce moment, et Angela Merkel, et qui a dit très clairement que l'un de ses principaux objectifs au cours de son mandat, ce sera d'asseoir la souveraineté numérique. Elle parle bien de souveraineté numérique. C'est une évolution sémantique qui est tout à fait intéressante parce que, encore une fois, elle marque ce que nous sommes un certain nombre à dire depuis un certain temps. Souveraineté ne veut pas dire, encore une fois, je l'aurais dit, tout faire tout seul, mais ça veut dire avoir les moyens de notre autonomie. Oui, bien sûr, les grandes plateformes numériques. Et je vais élargir notre propos, pas uniquement les GAFA, mais toutes les grandes plateformes numériques aujourd'hui.
Les plateformes.
Pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire les plateformes, c'est tout ce qui évidemment nous permet d'intervenir socialement. On voit que la plupart d'entre elles sont américaines, mais beaucoup sont chinoises aussi. Nous en avons aussi en Europe, mais pas que.
Mais c'est un écueil, c'est un problème, puisqu'elles sont too big to care, comme vous dites. Elles sont trop grandes pour justement prendre en conséquence.
Merci de prendre cette expression que j'ai utilisée. J'ai pris cette analogie entre des grandes banques lors de la crise financière, qui étaient finalement, on disait, too big to fail, qui estimaient qu'elles étaient tellement grosses qu'on ne pouvait rien leur imposer. Mais il y a des plateformes aujourd'hui qui sont tellement grosses qu'elles estiment qu'elles n'ont pas à se soucier des conséquences de leur impact.
Et c'est un problème.
C'est un problème parce que ça, c'est tout à fait inacceptable. Et donc, on va tout simplement, très tranquillement, sans, encore une fois, ostracisme aucun, on va tout simplement se donner les moyens de réguler tout cela dans l'intérêt des Européens.
Vous le précisez, avec un cloud industriel, des supercalculateurs pour l'autonomie, tous citoyens aussi européens connectés avec un très haut débit. Dernière question, Thierry Breton, les fameux 750 milliards, c'est beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on va aller rembourser et quand?
D'abord, ils seront remboursés. Pas par de l'impôt sur les ménages européens, contrairement à ce que certains ont pu dire, par, encore une fois, la possibilité que nous nous donnons désormais d'intervenir, de taxer tous ceux qui vont vouloir bénéficier du marché européen. Excusez du peu, c'est quand même le premier marché au monde. Oui. Donc c'est normal que quand on veut y pénétrer, eh bien on respecte nos règles. Et ceux qui ne les respectent pas, ça peut être par exemple parce qu'ils ne respectent pas les critères environnementaux, les critères sociaux.
Et dans ce cas-là, il y a des sanctions critères...
Non, il n'y aura pas de sanctions. Il y aura tout simplement un réajustement financier qu'on trouve déjà dans les droits de douane et qui sera évidemment des ressources, qui va constituer des ressources évidemment importantes sur lesquelles nous nous appuierons pour rembourser cet emprunt sur, je le rappelle, une maturité extrêmement longue, c'est-à-dire sur au moins 30 ans, parce que c'est évidemment ce qu'il faut pour rembourser l'impact de cette pandémie dont on pense qu'elle est évidemment séculaire.
Merci beaucoup de ces précisions, monsieur le commissaire européen Thierry Breton.